pendant les travaux. Venez profiter de nos aubaines pendant les rénovations. C'est du jamais vu. GM de la Salle, 8000 Boulevard Newman ou gmdelasalle.ca.
Tiens, chérie, ton cadeau de Pâques.
Des fleurs? Ah? Et mon chocolat Giacomo, lui? À Pâques, ça prend du Giacomo. Pour ne pas décevoir, chocolatgiacomo.ca.
La folie du printemps s'empare de Chambly Honda. Obtenez la Civic DX 2015 à 39 $ par semaine. Zéro comptant et 0,99% au financement sur 60 mois. Certaines conditions s'appliquent. Chambly Honda, 850 boulevard de Périgny. Maintenant ouvert les samedis. Les détails au chamblyhonda.com.
Intuitif. Intimiste. Chaleureux. À l'écoute. José Lito à Radio 9.
Merci de nous syntoniser. On a regardé hier avec beaucoup d'intérêt la dernière. D'ailleurs, toute la semaine, c'est les dernières. Hein. On va vivre beaucoup de deuil. On va essayer de se rendre jusqu'à l'automne parce qu'on est très attaché à ces séries-là. Lundi soir, c'était une nouvelle adresse, entre autres, avec une finale tellement bouleversante. On en a parlé avec, entre autres, le Richard Blemmer cette semaine. On en a parlé aussi avec beaucoup d'autres personnes. On a eu mardi droit à Mémoire vive. La dernière de Mémoire vive est retour à l'automne, contrairement à une nouvelle adresse qui va revenir aussi à l'automne, mais sans la présence d'un intégral. Pointe, on a eu Mémoire vive, on a eu aussi Unité 9 et là hier soir c'est du 9-2 et dans tout ça, il y a des chocs post-traumatiques inévitablement parce qu'on se demande bien ce qui va se passer, là on sait que la saison est terminée, on sait que 19-2 ne reviendra plus, peut-être qu'on va savoir tout à l'heure par Paul s'il y a une possibilité de poursuivre cette série-là parce qu'hier, il n'y avait pas, c'était une fin sur un épisode, sur quelque chose qu'on avait compris, mais il y a une ouverture sur autre chose, et là il y aura peut-être justement des chocs post-traumatiques liés à ce monde-là. Et puis, avant-hier, je découvre un documentaire qui était en rediffusion, parce qu'il avait déjà été diffusé auparavant sur Télé-Québec, « Héros sous le choc », et j'ai trouvé ça renversant. Et j'ai vu un homme qui en parlait et qui semblait connaître un peu pas mal son métier, de ses chocs post-traumatiques. Il a pour nom Stéphane Gay, psychologue clinicien, c'est bien ça. Vous êtes professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
Oui.
Et puis directeur du Centre d'études sur le trauma, Centre de recherche d'Institut universitaire en santé mentale.
De Montréal. De
exactement.
Montréal.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Un plaisir, ben merci à vous.
Faut essayer de décortiquer quelque chose. On parle beaucoup de ces chocs post-traumatiques. Souvent, on les attribue, on les colle sur la réalité des soldats qui reviennent de mission, par exemple, parce que Roméo Dallaire a beaucoup parlé de ça, hein, de le choc post-traumatique. On a osé lever le voile sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, sur lequel on avait beaucoup de préjugés. Vous, vous dites, oui, mais un choc post-traumatique, et pas juste vous, votre centre d'études le prouve, que c'est pas uniquement pour les gens qui ont de l'armée. Tout le monde, beaucoup de gens ont des chocs post-traumatiques. Ça peut être un vol de banque, par exemple. Quelqu'un qui a assisté à ça. Ça peut être un choc violent parce que t'as vu quelqu'un se noyer. Bref, des chocs post-traumatiques, ça existe beaucoup plus qu'on pense.
Absolument, absolument. En fait, dans la population canadienne, ce qu'on sait, et c'est un chiffre qui est assez quand même révélateur, c'est qu'il y a le trois quarts des gens, donc 76% plus précisément, qui ont vécu au moins un événement qu'on dit potentiellement traumatique au cours de sa vie. Donc, 76% qui auraient pu développer éventuellement un état de stress post-traumatique. Et là-dessus, la majorité des événements sont des événements de type acte de violence, entre autres. Mais aussi, vous avez nommé une chose intéressante, c'est aussi le fait d'être témoin de, des choses. Et ça, c'est pas souvent dit. Et dans nos recherches qu'on mène en milieu de travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, on se rend compte que le fait d'être témoin, c'est peut-être tout aussi traumatisant que d'être directement victime.
On parle de ceux qui ont des chocs post-traumatiques, mais aussi à ceux qui survivent, qu'on appelle le syndrome du survivant qui existe. Vous savez, par exemple, on va faire référence à Dawson, référence, par exemple, aux événements de la Polytechnique, où moi, j'ai reçu Geneviève Coden, entre autres, qui était une survivante de la Polytechnique, et elle disait, moi, je vis, et je ne sais pas pourquoi je dois vivre, et quelle responsabilité que j'ai. Ça s'appelle le syndrome du survivant, vous le connaissez. Qu'est-ce qu'on fait avec la responsabilité de vivre? Et ça, il y a aussi un choc-là important chez les gens qui sont des survivants.
Ben absolument. En fait, surtout lors d'événements qui sont vécus collectivement ou en groupe, comme celui d'une fusillade, mais je pense que les militaires aussi peuvent le rapporter, ou même les policiers, par exemple, pour lequel un de leurs coéquipiers se ferait, disons, blessé par balle et tout ça. Alors souvent, c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'individu va se dire, ben ça aurait pu être moi.
Ouais.
Alors et puis là, ça, il peut s'en suivre d'autres questionnements du pourquoi c'était pas moi et pourquoi ça a été mon collègue et donc il peut y avoir des émotions qui viennent se coller à ça, comme de la culpabilité.
Ouais.
Entre autres, je pense que c'est l'émotion dominante là, chez les survivants qui peuvent vivre ce type de syndrome-là. Et la culpabilité peut aussi se coller à la honte et à d'autres émotions comme la colère et l'anxiété, bien sûr. Alors donc chaque individu, en fait, qui vit des événements et à travers tous les contextes qui sont possibles d'en vivre, va avoir ses propres émotions, ses propres pensées qui vont se coller ou qui vont se greffer suite à ça et qui vont entraîner évidemment des niveaux de détresse qui peuvent être très élevés, mais qui peuvent être aussi différents là d'un point de vue qualitatif, si vous voulez.
Mais en même temps, on a fait des études justement sur Dawson en prenant 1000 personnes, je pense, et on a décidé de voir à quel niveau ils étaient atteints, et les statistiques sont extraordinairement difficiles à entendre, c'est-à-dire une grande partie des répondants avaient été atteints quelque part parce qu'ils venaient de vivre.
Ben, écoutez, ça fait plaisir que vous me parliez de Dawson parce que je faisais partie de l'équipe de recherche là qui a étudié justement les effets de la fusillade. Cette étude-là nous a appris plein de choses. Premièrement, faut que je vous dise que suite à un événement comme celui-là, les gens qui étaient à l'intérieur du collège ou à l'extérieur, certainement, on peut penser que 80, 90, 95% peut-être ont été en état de choc pendant au moins quelques heures, quelques jours. Il s'en est suivi par ailleurs, évidemment, une série de services d'aide qui ont été offerts, qui ont été plus ou moins utilisés. Je ne sais pas si on reviendra sur l'utilisation des services tout à l'heure, mais ça pourrait être très intéressant.
Oui, mais il y a des gens qui n'osent pas y aller.
Ah, beaucoup.
Qui ne se reconnaissent pas dans cet état-là.
Exactement. Ouais. Et puis, la plupart des gens vont se dire, ah, ça va passer tout seul. Alors, je vais m'en sortir tout seul. J'ai pas besoin. C'est pas aussi grave que la personne que je vois là-bas qui, elle, en a vraiment besoin. Donc, je vais attendre avant d'aller chercher de l'aide. Et ça a été évidemment un des pires réflexes, en fait, qu'on a pu justement observer chez les gens.
Ouais, ça les rattrape.
Ben, clairement, parce que, en fait, on a pu constater qu'il y avait à peine 50% des gens qui ont développé un trouble de santé mentale suite à la fusillade. Donc, on a pu le diagnostiquer. Là. Ils l'ont eu après la fusillade, donc probablement à cause de la fusillade.
Quand on parlait de santé mentale,
ça inclut
on parle
le stress
dépression.
Post-traumatique, mais ça inclut, en fait, dans un premier temps, je vais y revenir dans deux secondes, simplement vous dire que chez cette moitié de personnes-là qui ont développé un trouble de santé mentale puis qui ont décidé de pas consulter, quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit la principale raison, c'est qu'ils trouvaient pas ça acceptable d'aller chercher de l'aide pour un problème de santé mentale. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui est assez commun par rapport aux problèmes de santé mentale dans la population générale, mais que là, malgré l'offre d'aide et malgré la reconnaissance, disons, évidemment, du caractère très grave de l'événement, les gens sont tout de même pas allés chercher de l'aide.
Mais en même temps, vous disiez de la santé mentale, est-ce que ça inclut une dépression, par exemple?
Ah, tout à fait.
Ça inclut une anxiété aiguë, ça inclut beaucoup de choses, là.
Absolument. En fait, moi, on m'a inclus dans l'équipe de recherche parce qu'évidemment, à cause de ma spécialité en stress post-traumatique, on s'est dit, bon, suite à la fusillade, bien entendu, il va en avoir. Alors, donc, on s'attendait même, notre hypothèse, c'était que ça allait être le principal trouble de santé mentale qui découlerait de la fusillade. Or, on a découvert qu'un an et demi après la fusillade, dans le fond, tout d'abord, il y avait un 15% de la population là, étudiante qui ont développé des problèmes de santé mentale suite à la fusillade. Donc, ce qui est quand même une incidence énorme, là, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit dans la population générale. Et d'autre part, ce qu'on a découvert, c'est que le trouble de santé mentale le plus fréquent était la dépression.
Mm-hmm.
Alors, ça a été vraiment une leçon extraordinaire parce que ça nous a permis de voir, en fait, que le fait d'être exposé à un événement équivaut pas de développer un état de stress post-traumatique. Alors, on peut voir que cette exposition-là et les effets de cette exposition-là, direct ou indirect, peut amener d'autres problèmes de santé mentale, dont la dépression, dont les troubles de consommation, bien sûr. Et un qui nous a beaucoup étonné, c'était celui de la phobie sociale.
Oui.
En fait, le stress post-traumatique est arrivé au quatrième rang des plus fréquents. Et donc, ça nous a vraiment appris quelque chose, notamment en termes de stratégie de dépistage. Éventuellement, si on revit un événement comme celui-là, ben on cherchera pas juste à voir qui est traumatisé. On va essayer de voir aussi, mais il y a peut-être de la dépression aussi qui s'est développée.
Je vous dis ça parce que je faisais partie, je vais amener les choses à moi, mais je faisais partie, j'étais Mme Marois au moment où il y a eu l'attentat contre elle. Elle, et on était là à 17 pieds d'elle pour tourner les images d'un documentaire à venir. Et je me souviens, parce que quand l'événement est arrivé, moi, c'est la première fois que j'en parle, quand l'événement est arrivé, nous, on n'a pas cru ce qu'on entendait. Ça a mis beaucoup de temps. Et tous les gens qui étaient là, ça a mis beaucoup de temps. C'est comme quelques jours, quelques heures après, quand on s'est retrouvés chacun dans notre voiture, qu'on a mesuré l'ampleur de ce qui aurait pu arriver. Et il y a beaucoup de gens qui ont été traités pour des chocs. Et des fois, ça a même rebondi quelques années après, je dirais quelques mois après, par des grandes anxiétés non contrôlées. Dans mon cas, moi, je ne peux rien dévoiler, mais ça a été, moi, sur le coup, j'ai eu un choc. Et j'étais avec mon ami caméraman et le sonorisateur, puis on se textait constamment pour être capable de voir où on était notre choc à ce moment-là. Ça a pris quelques jours à traiter, mais je me souviens encore, et ça m'intrigue quand j'ai vu Mme Marois en lui demandant, et vous? Vous qui saviez que c'était contre vous qui était dirigé cet attentat, et visiblement, elle a dit, j'ai pensé plus à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma famille. Chacun a sa façon de se protéger aussi.
Ah, absolument. Il y a une façon de s'adapter pour chaque personne. Et c'est là que ça devient, en fait, difficile en recherche de pouvoir, disons, essayer d'identifier qui sont les personnes les plus à risque après. Parce qu'il y a tellement de choses à considérer quand on regarde, par exemple, les stratégies d'adaptation. Ouais. Il y en a qui vont en parler beaucoup, d'autres vont moins en parler. Il y en a qui vont aller chercher de l'aide, d'autres n'iront pas chercher d'aide. Et même ça, bien sûr, on favorise que les gens en parlent et aillent chercher de l'aide, c'est clair, surtout s'ils en ont besoin. Mais par contre, il y a bien des gens qui en parleront pas et qui vont se retrouver plusieurs années après à être en très bon état. J'ai eu cet exemple-là, en fait, d'une étudiante qui est venue participer à un de mes cours à l'université, justement, et qui, c'était la première fois, un peu comme vous, après plusieurs années, en fait, ça faisait 6 ans qu'elle avait vécu la fusillade, puis c'était la première fois qu'elle reparlait de ce qu'elle avait vécu. Et elle était très près du drame, elle était dans la cafétéria, et c'était une amie d'Anastasia Dessouza. Oui. Alors, donc, et pourtant, elle allait très bien. Alors, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment, c'est fascinant, en fait, l'adaptation de l'être humain suite à des événements comme ceux-là.
Je me suis fait une entrevue, donc, avec Geneviève Codet, qui décrivait les événements de la polytechnique comme s'il s'agissait d'un film qu'elle racontait.
Absolument.
Parce qu'à un moment donné, tu dois te faire une espèce de dissociation des événements, parce que sinon, tu es complètement plongé dedans.
Ouais.
Jusqu'à une question que je lui pose, banale, d'apparence, mais anodine, mais en même temps, ça a fait éveiller quelque chose en elle. C'est un choc post-traumatique, c'est un coup quelque chose qui te rappelle quelque chose. Et là, je l'ai vu changer, d'ailleurs. Elle avait dit, jamais j'avais vu les événements de cette façon-là. Mm-hmm. Puisque je m'étais raconté une histoire pour être capable de m'en sortir de cette histoire-là.
Ouais.
C'est fascinant ce que le cerveau fait pour se protéger. C'est comme, je sais pas si on peut le prouver chimiquement parlant, mais il y a comme une protection, un rempart qui nous empêche, au moment venu, de prendre toutes les informations qui viennent.
Absolument. Puis, je peux continuer dans la même veine. Cette forme de, on va dire que c'est un évitement fonctionnel.
Ouais. Ouais.
En général, on décourage un petit peu l'évitement parce que l'évitement peut aussi renforcer, évidemment, le développement d'un stress post-traumatique.
C'est clair.
Mais dans son cas, ça a pu l'aider à fonctionner. Alors, on peut difficilement appliquer une même recette à toutes les personnes.
Sauf que, Stéphane Gay, ce n'est pas d'une façon délibérée que les gens le font habituellement. Ils disent pas on-off en disant je vais fermer l'histoire et ça va cesser là, non?
Ah, absolument pas. C'est souvent quelque chose qui arrive naturellement et puis ça fonctionne, absolument, on peut l'appeler comme ça.
On est à quelques minutes de l'arrivée tout à l'heure de Pods qui sera avec nous et je veux revenir et Claude Legault, on peut en parler quelques minutes parce que justement, Héros sous le choc, c'est lui qui présentait ça, c'était très très très
beau. Il était excellent comme narrateur.
Vraiment extraordinaire et lui, ça le fascine parce que depuis qu'il est tout jeune, il éprouve une grande fascination pour le monde des policiers et on n'est pas étonné qu'il soit en 19-2. Mais ce qu'on a découvert surtout qui était très très troublant, c'est qu'on voyait des héros qui étaient sous le choc, c'est-à-dire des gens qui d'apparence avaient traversé l'événement sans aucun problème et soudainement un matin se lève et s'est mis à se terminer là. Et aussi, ils portent la honte parce que ce sont des hommes souvent en service. On a vu des femmes, mais des hommes en service, des hommes qui étaient là au premier rang, sur le front, par exemple, au lac Bégantique, on en a vu là aussi. Et d'apparence, tout allait bien et un jour, tout s'arrête, la lumière s'arrête et ça ne se rallume pas.
Ah non, non. C'est un reportage extraordinaire pour plusieurs raisons. Et une des premières raisons, tout d'abord, c'est que ça fait voir aussi la vulnérabilité de ces personnes-là.
De ces héros.
De ces héros, effectivement. Puis ils le disent souvent, en dessous de la veste par balle, il y a un être humain.
Ça, c'est pas très, très beau. C'est une ligne très forte du documentaire.
Absolument. Ça. Et puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que des hommes venaient témoigner de ça.
Ouais.
Et les hommes ont moins tendance à se confier, à témoigner de ce genre de choses-là. Et là, c'était de voir ces gens-là qui ont vraiment un profil masculin. qui ont également différents âges. Hein. Il y avait des plus jeunes, ouais, des plus vieux, des gens qui ont beaucoup d'années de carrière et d'ancienneté, qui en ont vu de toutes les couleurs et qui tout d'un coup là témoignent en fait que là ils ont été dépassés par, ouais, les événements et de toutes sortes de façons. Alors ça a été vraiment, je pense, quelque chose qui va beaucoup inspirer en fait les travailleurs de ce secteur, ouais, policiers, premiers répondants en fait, ouais, qu'on les appelle, et qui va peut-être justement les encourager ou enfin ouvrir une brèche vers, mmh, la recherche d'aide s'ils se sentent dans cet état-là, eux aussi.
En tout cas, moi, j'avais le goût de vous inviter ce matin, Stéphane Gay, psychologue clinicien et professeur aussi à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directeur du Centre d'études sur le trauma au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, parce que je me disais, on n'en parle pas assez de ces traumas-là, on n'en parle presque jamais. C'est un sujet tabou et un des premiers qui en a parlé, c'est Roméo Dallaire, en, ouais, avouant ce qu'il vivait à tous les jours, ce calvaire, il le dit comme ça, qu'il vit à tous les jours. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle et j'espère qu'on aura toutes ces tribunes possibles pour aider ces gens qui aujourd'hui nous écoutent et qui se disent, je pense que j'en vis un choc post-traumatique, puis qu'ils n'osaient pas le nommer.
Ben, je ne peux que partager votre avis. Puis si jamais vous avez quelques minutes, vous irez voir un autre reportage qui a été publié à une petite pilule, une petite granule.
Oui.
La semaine dernière.